dans Décodeur, le podcast qui parle de celles et ceux qui font la déco aujourd'hui. Je m'appelle Hortense Leluc, je suis journaliste déco et à chaque nouvel épisode, j'invite à mon micro des pros de la déco. Ensemble, on peut parler savoir-faire, inspiration, tendance, actu, idées déco, envers du décor. Bref, on papote et on enregistre car ici, la déco, ça s'écoute. Si vous venez juste de découvrir cette émission, j'espère qu'elle vous plaira. Sachez qu'il y a déjà plus de 80 épisodes enregistrés avec de nombreuses personnalités passionnantes et plein d'autres formats aussi sur des thématiques bien précises. Pour suivre tout ça en photo, vous avez Instagram, bien sûr, @décodeur, et petite nouvelle, la newsletter. N'hésitez pas à vous abonner, à m'écrire, à partager, bref, à faire vivre ce podcast qui n'existerait pas sans votre fidélité. Allez, c'est parti. Aujourd'hui, je suis ravie de rencontrer Laurence Dutilly, notamment à l'occasion de la sortie de son livre « Intérieur sacré », qui sortira le 15 novembre, qui parle de spiritualité en décoration. Il faut dire que Laurence a un univers qui est très relié aux émotions, à la sérénité, aux vraies valeurs de la vie, l'authenticité, la simplicité, ce qui ne l'empêche pas de travailler dans un univers où le design et le luxe s'en mêlent. Elle va donc nous expliquer comment elle fait cohabiter tout ça. On va aussi parler de sa ligne de mobilier, des lieux qu'elle a rénovés et qu'elle loue, de sa casquette de styliste aussi, avant, d'autrice. Bref, installez-vous, je pense qu'on va passer un très bon moment. En tout cas, nous, on est très bien installés, parce qu'il faut que je vous dise, on n'est pas n'importe où. On enregistre à l'hôtel de Crillon, Rosewood Hotel. Oui, ce 5 étoiles qui donne sur la place de la Concorde et qui figure dans la top liste des 50 meilleurs hôtels du monde. Alors, c'est un lieu qui est complètement hors du temps, je dirais. C'est vraiment le comble du chic, l'élégance à la française dans toute sa splendeur. Il y avait eu des travaux de très grande envergure il y a quelques années, notamment parce qu'ils ont créé un deuxième sous-sol avec un spa et une piscine. Et j'étais jamais re-rentrée à l'intérieur, donc je suis vraiment ravie qu'ils aient accepté qu'on enregistre ici. Juste dans le détail, l'hôtel de Crillon, il compte à peu près 124 chambres et suites, dont deux ont été imaginées par Karl Lagerfeld. Il y a aussi un restaurant gastronomique, un jardin d'hiver, un bar, la pâtisserie Butterfly et le salon de thé attenant. Et Nonos, une brasserie qui renouvelle le grill à la française, dans lequel on peut venir sans aller à l'hôtel et dont les décors sont signés Tristan Hauer. Merci à ce très bel hôtel de nous accueillir. Bon, Laurence, ça y est, j'ai terminé cette longue intro. Bonjour Laurence.
Bonjour Hortense.
Alors, j'avais envie de commencer tout de suite parce que c'est ce que je disais dans l'intro. Tu as une signature et une identité qui est assez claire et sur laquelle tu communiques ou que tu revendiques, qui est que tu souhaites apporter un supplément d'âme aux intérieurs, réconcilier le luxe et la simplicité. Alors, ça veut dire quoi, réconcilier le luxe et la simplicité? On attaque dans le vif du sujet.
Alors, pour moi, le luxe, c'est tout le contraire de ce qui est un peu bling-bling, ostentatoire. Pour moi, le luxe, c'est vraiment l'authenticité, c'est vraiment aller au cœur des choses, le respect des choses, la beauté des choses. Ça, pour moi, c'est vraiment le luxe. Et par conséquent, ça peut être effectivement très simple, puisqu'on est vraiment au cœur des choses.
Mais pourquoi justement, quand on pense luxe, on pense plutôt bling, comme tu disais?
Ben parce que le luxe, fatalement, c'est connoté un petit peu argent, cher. Et il y a peut-être aussi tout un tas de gens qui ont besoin finalement de montrer ça. Ce qui n'est pas du tout... moi, ce n'est pas ma vision du luxe. C'est plus des beaux matériaux, des choses qui sont faites à la main avec vraiment une intention. C'est la beauté des lignes, c'est prendre le temps de faire le travail. En fin de compte, pour moi, le luxe, c'est pour aller vers la beauté et pas pour aller vers quelque chose d'économiquement rentable. Ou, voilà, c'est vraiment aller au cœur des choses, faire du beau pour du beau.
Ouais, parce que c'est vrai que quand on... C'est un peu cliché ce que je demandais, mais quand on a de l'argent, les gens qui ont de l'argent, ils vont vite se tourner vers des marques, des bestes, ouais, des iconiques. Pourquoi parfois les gens riches n'arrivent pas à rester simples? Tu vois ce que je veux dire?
Oui, alors c'est vrai que... Bon, après, c'est pas un jugement, hein, parce que peut-être que certaines personnes ont besoin de le faire savoir. Mais je pense que le nouveau luxe, justement, c'est, et d'ailleurs on le voit hein, maintenant de plus en plus quand on côtoie des endroits, des choses comme ça, cette approche du luxe un peu bling-bling, c'est un peu passé. Et aujourd'hui, le vrai luxe, justement, il va dans la simplicité.
Alors toi, tu vas porter un supplément d'âme. Comment on l'apporte ? C'est quoi ta recette ? C'est par des objets, des couleurs, des matériaux ?
Alors pour moi, le supplément d'âme, déjà, c'est de considérer que son intérieur, c'est vraiment son intérieur. C'est sa base, c'est son refuge. Et donc, pour moi, vraiment apporter un supplément d'âme chez soi, c'est s'écouter. C'est aller un peu loin des dictats de la mode, de choisir les éléments qui vont être chez toi parce que c'est des choses qui te font vibrer, pas parce que ce sont des choses qui sont à la mode ou que tu as vu dans le dernier magazine. Que chaque objet finalement raconte quelque chose, c'est vraiment ça, oui, le supplément d'âme. C'est plus choisir tes objets, tes couleurs, pour ce que ça t'évoque, ce que ça te donne comme émotion. Plus que parce que, voilà, c'est à la mode.
Donc, c'est se créer un intérieur très personnel.
Très personnel, ouais.
Et ça, c'est la grande question aussi. Les gens ne savent pas forcément comment donner un supplément d'âme à leur salon, à leur chambre, avoir un intérieur qui leur ressemble. C'est une question qui revient souvent aussi.
Oui, parce que quelquefois, peut-être les gens n'osent pas. Mais s'ils ont vraiment des pièces, je dis par exemple le fauteuil de ta grand-mère, peut avoir l'air peut-être un peu kitsch, mais si ça c'est une pièce importante pour toi, et bien après tu vas jouer autour et tu vas faire en sorte que ça s'harmonise à l'intérieur de chez toi, après de travailler sur des choses qui fonctionnent entre elles, mais on peut, enfin il faut pas passer à côté de certaines pièces parce que c'est pas tendance.
Qu'est-ce qui fonctionne bien en déco par exemple, qui fonctionne bien entre eux, tu nous dis?
Oui, alors moi, c'est vrai que dans mon univers, je mélange énormément les choses anciennes avec des choses hyper contemporaines. Alors, j'ai souvent le fil conducteur un petit peu. Pour moi, c'est la couleur. Par exemple, je peux mélanger des objets si c'est, par exemple, sur un camailleux et pour le coup, ça fonctionne. Ou même peut-être certaines pièces qui peuvent avoir l'air un petit peu anciennes, on les met sur un mur, un fond, un mur noir par exemple, ou un mur avec une couleur un petit peu moderne, un mur curie. Enfin voilà, ça c'est des choses qui fonctionnent bien.
Donc la simplicité dont tu nous parlais, ça ne veut pas forcément dire être neutre et dépouillé.
Pas du tout. Pour moi, la simplicité. Alors la notion de simplicité, c'est plus dans les formes. C'est vrai que moi j'aime les formes simple, sobre, mais on peut mélanger ça avec des choses un petit peu plus rock'n'roll à côté. Enfin, après, chacun fait un peu son propre mélange.
Comment tu définirais, toi, ton style déco ?
Alors, c'est vraiment un mélange. C'est vraiment un mélange de choses anciennes, parce que je trouve qu'il y a des choses magnifiques qui sont vraiment issues d'un savoir-faire, d'un travail artisanal. Et puis, j'aime me dire aussi que ce meuble a traversé des générations et qu'il est toujours là. Enfin, ça, c'est quelque chose qui me plaît. J'aime le mélanger à des choses très contemporaines, très design. Alors, c'est vrai que moi, j'ai grandi dans un univers assez classique, mais quand j'étais enfant, moi, les intérieurs de mes copines, qui étaient très 70, des mamans de mes copines, je trouvais ça fantastique. Donc déjà, j'aimais ce côté un petit peu différent. Après, c'est vrai que moi, je ramène aussi beaucoup de choses d'art africain, parce que c'est un peu l'histoire, mon histoire. Voilà, j'ai mes parents, mon oncle, mes oncles ont beaucoup vécu en Afrique, donc j'ai toujours ma petite chaise africaine, d'ailleurs, à la maison. Et puis, j'aime rajouter aussi des choses un petit peu empruntées à tout ce qui est art sacré, parce que c'est quelque chose que je trouve vraiment extrêmement beau. Et puis qui me procure une émotion et qui transmet quelque chose, ouais, dans l'intérieur.
Oui, tu as un univers qui est très lié aux émotions. Tu dégages quelque chose de très serein. Comment tu arrives à faire vivre ces valeurs dans le monde de la déco ?
Alors déjà, c'est vrai que pour moi, si par exemple je t'emmène à la maison, chaque objet a son histoire. C'est vraiment, mais ça peut être une histoire toute bête, comme je suis allée faire une brocante avec une très bonne amie, on a passé une super après-midi et j'ai ramené ce plat, par exemple. Je peux raconter une histoire avec chaque objet Parce que pour moi, un objet, c'est pas juste une forme, c'est une petite partie de ma vie. Ça raconte une histoire, c'est l'émotion que j'ai eue en voyant cet objet, c'est des souvenirs que j'ai en regardant cet objet. Donc ça, oui, ça, c'est important.
Et la déco, elle peut apporter ça, surtout là, en ces temps un peu difficiles, on va dire. Elle peut apporter de la sérénité, un bien-être.
Oui, moi je pense qu'il est vraiment très très important de prendre soin de son intérieur, comme on prend soin de son intérieur au sens figuré.
Et comment on en prend soin ?
Eh ben en prenant le soin de choisir chaque. Enfin, il faut pas laisser les choses un peu au hasard. Il faut que chaque objet se soit un petit peu réfléchi. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai voulu faire avec ma ligne de meubles. Moi, je dessine des meubles et après, je laisse aux gens le soin de se l'approprier en choisissant leur couleur. Et ça, c'est important, vraiment, parce que chacun, on est très différent, on est unique. Et pour le coup, je pense que chaque intérieur doit être unique et différent.
Et surtout, mélanger, comme tu disais, toi, tu fais cohabiter les symboles du passé, tu as évoqué les symboles religieux aussi, on va revenir, et tout ça de manière très contemporaine. Mais comment on réussit ça? Parce que souvent, on peut tomber un peu dans les clichés. Ceux qui aiment bien l'ancien et les symboles religieux, on imagine un genre d'intérieur et ouais. Le contemporain, un autre genre d'intérieur.
Ouais, mais je pense que c'est le mélange qui permet ça. C'est vraiment le mélange des styles, le doser la couleur. Je crois qu'il ne faut pas s'enfermer, voilà, faut pas s'enfermer dans un style.
Et comment, je me permets de te demander, comment tu assumes ces symboles religieux dont tu parles? Comment tu les mets? Comment tu les installes dans ta déco? Est-ce qu'ils passent inaperçus ou est-ce qu'au contraire tu les mets en avant?
J'aime quand les choses sont harmonieuses, donc comme chaque chose, à la limite, ça c'est un peu mon ancien métier de styliste, je dirais c'est comme faire des natures mortes. Donc je vois par exemple dans ma maison d'hôte, j'ai une superbe croix qui est sur la cheminée, mais elle n'est pas mise en avant pour que forcément quand tu rentres dans le salon, tu la vois, mais elle s'harmonise avec les autres, elle se cache un peu derrière une grande lampe le daim, elle ressort sur le fond bleu du mur. Enfin, j'aime bien ponctuer comme ça des petites choses, tout en faisant en sorte que tout est lié finalement.
Ouais. Tu nous parlais de ton, c'est plusieurs fois, de ton ta vie d'avant. C'était quoi ta vie d'avant? Quel
Alors,
est ton,
avant,
ton parcours?
Ouais, avant, j'étais styliste art de vivre. Je vivais à Paris, je travaillais beaucoup pour la presse et pour l'édition.
Alors styliste peut-être, qu'est-ce que ça veut dire exactement?
Alors la styliste en fin de compte, elle travaille en équipe avec le photographe pour mettre en scène ce que le photographe va photographier.
Donc voilà. Tu faisais ça pour la presse?
Pour la presse et l'édition.
Ouais. D'accord, et après t'as changé de...
Et donc en 2013, j'ai voulu quitter Paris parce que voilà, la vie parisienne ne me convenait plus. J'avais envie de donner beaucoup plus de sens, d'avoir une vie qui soit plus posée, bien que je n'ai jamais autant bossé que depuis que je vis en Normandie. Mais voilà, au moins je suis à la campagne, c'est complètement différent. Et puis j'avais aussi envie de, plutôt que de travailler pour des magazines, pour des marques, j'avais vraiment envie d'exprimer ma signature, mon univers. J'avais vraiment très envie de mettre en scène mon propre univers. Et c'est ce que j'ai fait en créant des lieux. Donc à Caen, donc j'ai une maison d'hôte qui s'appelle Chez Lance du Tilly. Et puis après, j'ai lancé l'annexe où vraiment ça a été mon terrain de jeu pour exprimer mon univers, qui est justement ce mélange d'anciens, de contemporains, d'art sacré, d'art africain. Enfin voilà, qui est ma...
Donc ce sont deux lieux que tu as quoi? Que tu as rénové, que tu loues?
Oui, alors pour moi, il était aussi très important de faire en sorte que les gens se sentent bien. Parce que quand j'étais à Paris, on faisait énormément de photos chez moi, parce qu'il y avait une très jolie lumière. Et à chaque fois que les gens venaient, que ce soit les photographes, les agences, les clients, les magazines, enfin, et à chaque fois, les gens disaient, alors soit au début ou à la fin, mais tout le monde me disait, oh, c'est incroyable, qu'est-ce qu'on se sent bien chez toi. Et ça, quand j'ai quitté Paris, je me suis dit, il faut absolument que j'en fasse quelque chose. Parce que je trouve que c'est merveilleux, dans le monde dans lequel on vit, de pouvoir justement avoir ces petites parenthèses, pouvoir avoir des moments où, finalement, on se sent bien. Et voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de créer des lieux où je pourrais recevoir les gens pour faire en sorte qu'ils se sentent bien. Donc, j'ai trouvé un hôtel particulier à Caen, que j'ai rénové et entièrement retapé pour en créer trois. En fin de compte, ce ne sont pas des chambres, ce sont des suites, comme des petits appartements. Et c'est là que je reçois les gens pour une nuit ou plus, pour passer un bon moment, que ce soit presque un peu comme une expérience. Ça a très bien fonctionné. Les gens venaient plus pour découvrir mon univers que pour découvrir la ville de Caen. Et ils étaient très surpris d'ailleurs de voir que Caen était finalement une très belle ville qui n'avait pas été si détruite. Et donc après, j'ai lancé l'annexe qui est un petit peu la petite version, mais plus à la campagne, au vert. Voilà, c'est une petite maison avec exactement le même genre de prestations. C'est-à-dire qu'on propose beaucoup de choses pour que les gens se sentent bien. Donc, ça va du cours de yoga, des initiations à la méditation, des plateaux de fruits de mer, des massages ayurvédiques. On propose tout un tas de services pour faire en sorte que vraiment les gens soient bien.
Et pour qu'ils se sentent bien chez toi, comment tu fais en termes de déco ?
Alors, j'ai fait exactement, j'ai meublé et aménagé chaque lieu exactement comme si c'était chez moi. D'ailleurs, j'ai mis beaucoup de choses personnelles, de meubles qui m'appartenaient. Enfin, j'ai chiné beaucoup de choses que j'ai chinées. Donc, c'est vraiment, vraiment comme si c'était pour chez moi. C'est-à-dire, je ne me suis pas dit, oh là là, je vais louer, donc je mets des choses qui craignent rien ou des choses que j'aime pas trop. Non, franchement, tout ce qui est là-bas, c'est des choses que j'aime. Enfin, j'ai vraiment mis une part de moi-même et je crois que ça se sent. Et puis, j'ai surtout plein de petites attentions pour que les gens se sentent accueillis et se sentent tout de suite bien chez eux.
Et comment on fait pour se sentir bien chez soi, nous ? Qu'est-ce que tu nous donnerais comme tip si on a envie de se sentir bien chez soi ?
Alors, d'avoir des petits objets, je dirais un petit peu personnel, des matières douces, des fleurs, des objets où tu sens que ça raconte une histoire. Et puis avoir, toujours pareil, des belles matières, des meubles, peut-être qu'on aimerait avoir chez soi, mais qu'on n'a pas chez soi. Enfin voilà, vraiment.
Et les couleurs pour se sentir bien pour toi ?
Alors moi, j'aime les couleurs douces, plutôt les couleurs douces. Après, j'ai fait le salon d'accueil, c'est un bleu gris qui tourne un petit peu au kaki. C'est vrai que j'ai plus une attirance pour les couleurs un petit peu chaudes, pour que ce soit enveloppant.
Tu as une casquette aussi de designer, tu nous en parlais tout à l'heure. Tu as créé toute une ligne de mobilier personnalisable, qui est donc une marque à ton nom. Ça s'appelle Laurence Dutilly. Ce sont plutôt des meubles, tu as commencé par des tables basses. Pourquoi t'as l'air aussi très attachée aux objets déco. Pourquoi partir plutôt sur du mobilier ?
Alors, quand j'ai créé mes lieux, j'ai énormément de clients qui m'ont appelé en me disant là, on change de vie, on déménage, on divorce, et on aimerait que vous fassiez la déco chez nous parce que on aimerait pouvoir se sentir aussi bien chez nous que on s'est senti chez vous. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à faire un peu de conseils déco. Et là, à chaque fois qu'il fallait choisir la table basse, c'était toujours un peu un dilemme parce que je trouvais qu'il n'y avait pas grand-chose. Enfin, moi, j'avais rien qui m'emballait. Donc, je me suis dit, je vais lancer ma ligne. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de lancer ma marque. Donc, je me dis, c'est peut-être le moment. Donc, j'ai commencé en dessinant ces tables. Mais le premier objet que j'ai dessiné avant même de lancer mes tables, de dessiner mes tables, c'est un pixierge. Parce que je collectionne les pixierges anciens, les pixierges d'église. Et donc, je me suis dit, je vais en faire un qui soit contemporain. Et donc, c'est comme ça que ça a été vraiment le premier objet.
Un pixierge, c'est quoi ? C'est comme un grand pied ?
C'est comme un bougeoir, mais XL. C'est pas quelque chose qu'on pose sur la table, c'est quelque chose qu'on pose au sol. Qui étaient d'ailleurs les pixierges d'église, vraiment, à la base. Et puis après, j'ai dessiné des tables, au début uniquement des tables, et avec vraiment ce souci d'avoir des meubles qui soient très intemporels, qui puissent finalement aller dans n'importe quel type d'intérieur. Alors déjà, je les ai un peu imaginés pour chez moi et moi, j'ai un petit peu tous les styles. Donc, je voulais vraiment quelque chose qui, voilà, qui s'adapte partout et qui puisse aller aussi bien dans un intérieur hyper contemporain, dans un intérieur plutôt ancien, quelque chose avec une maison, par exemple, en béton ou alors dans un appartement haussmannien. Voilà, c'était, je voulais vraiment une table un peu qui soit à la fois très sobre, mais très présente. Voilà, c'est un petit peu comme ça, que, enfin, c'était cette démarche-là quand j'ai dessiné mes premiers meubles.
Et après, elles sont fabriquées où et par qui ?
Alors, c'est fabriqué en France, en Normandie. Toutes les tables sont fabriquées à la main, elles sont peintes à la main. Ça, c'était vraiment quelque chose de très important pour moi, parce que je suis extrêmement exigeante. Donc, proposer quelque chose à des clients, pour moi, je veux que ce soit parfait. Donc, voilà, je me suis tournée vers voilà, des gens qui travaillent le métal de façon artisanale. Et puis, plus que des artisans, enfin, je veux dire, ce sont vraiment des rencontres. Voilà, c'est des belles personnes, des vrais gens. Ce n'est pas des machines. Donc, ça aussi, c'était très important pour moi. Ouais. Et un petit peu la particularité de ma ligne de meubles, c'est que j'ai voulu laisser aux gens le soin de choisir leur propre couleur. Parce que comme je disais tout à l'heure, chaque personne est unique. Pour moi, c'est vraiment important que les gens se fassent un intérieur qui leur ressemble. Ça, c'est vraiment important. Donc finalement, moi, je dessine les meubles et ensuite, les gens choisissent leur couleur. Alors, je peux les conseiller, hein. Mais je propose 200 couleurs pour que vraiment que la table, ce soit une évidence chez eux. Voilà. Que ce ne soit pas la table d'un autre, mais que voilà, ce soit vraiment une évidence. C'est la couleur qui correspond à, je dis n'importe quoi, un tableau, par exemple, sur lequel, le tableau qu'ils vont emmener avec eux, je dirais, d'appartement en appartement parce qu'ils l'adorent, et ben voilà, peut-être c'est une des couleurs de ce tableau pour apprendre la table. Enfin, voilà, vraiment.
Oui, il y a 200 couleurs, donc on a le choix.
200 couleurs, ouais.
Ouais. Ouais. Et tes tables basses, elles se déclinent en extérieur. J'ai vu ça.
Et tous mes produits, alors pas les lampes encore, parce que je travaille dessus, mais tous les produits se déclinent pour l'extérieur, ouais.
Oui, il y a une console, il y a des lampes, oui, table basse. Et tes lampes, elles sont. Il y a une nouveauté, j'ai vu, c'était la table.
Alors, alors j'ai des lampes qui s'appellent Sœur, et la nouveauté, c'est le mélange. J'ai un petit peu de deux pièces un peu iconiques qui est la lampe de sol et le bout de canapé. Voilà, donc c'est une lampe qui fait un peu table en même temps.
Et qui est aussi belle allumée que ouais. Qu'éteinte.
Ouais, ça aussi c'est important pour moi parce que une lampe, que ce soit pas juste quelque chose de fonctionnel, mais que ce soit un bel objet à part entière. Donc oui, c'était important qu'elle soit aussi belle éteinte qu'allumée. Et c'est vrai que le pied est en métal thermolaqué, mais le globe est en opaline, par exemple. Parce que j'aime la douceur du toucher, j'aime la lumière que ça diffuse, comme ces lampes qu'on faisait autrefois. Donc voilà, j'aime bien, là encore, mélanger un petit peu mélanger les styles.
Ouais. Pourquoi la Normandie ? Je ne t'ai pas demandé tout à l'heure. Oui,
la Normandie. Alors, j'ai une maison de famille que j'ai récupérée. Jeune. Et donc, j'ai fait beaucoup de travaux et voilà, on était entre Paris et la Normandie. Puis un jour, je me suis dit, mais on vit tellement mieux là-bas que j'ai décidé d'aller m'installer définitivement là-bas. Ouais.
Alors, tu es auteur aussi. On dit autrice, tu veux qu'on dise quoi ?
Non, auteur.
Auteur, je suis d'accord.
Non, je ne suis pas pour féminiser tout à tout prix, non.
Alors, tu as écrit « À la table des sœurs » en 2022 et là, tu viens de sortir « Intérieur sacré ». Est-ce que tu veux nous parler de… On va parler d'intérieur sacré, mais de « À la table des sœurs » qui est vraiment un très beau livre, qui a une ligne éditoriale particulière.
Oui, alors… Dans mon métier d'avant, dans ma vie d'avant, j'ai fait beaucoup de livres. Et bon, voilà, ça faisait partie des choses que j'avais décidé d'arrêter parce que je ne peux pas tout faire. Voilà. Et puis, je suis allée en 2021, après le Covid, j'avais envie de partir un peu, de me ressourcer, de revenir un petit peu à l'essentiel, de m'isoler un petit peu. Et donc, je suis allée faire une retraite au Mont-Saint-Michel, dans la fraternité des Sœurs de Jérusalem. Et là, ça a été une rencontre absolument incroyable. J'ai Après avoir pris un repas avec elle, c'était tellement bon ce qu'elle nous avait servi. Alors, on dîne en silence. Hein. Donc, je n'avais qu'une idée après le repas, c'était de trouver une sœur pour qu'elle me donne la recette. C'était devenu obsessionnel. Et donc, après le dîner, je vois sœur Claire au parloir et je lui dis, écoutez, ma sœur, est-ce que vous pourriez me donner cette recette parce que... Et je ne sais pas pourquoi je lui dis ça, alors que ça faisait 10 ans que je n'avais pas fait de bouquin. Je lui dis parce que j'en ai fait des livres de recettes, mais vraiment, je n'ai jamais rien mangé d'aussi bon. Et là, son visage s'éclaire. Elle me dit, attendez, bougez pas, bougez pas. Elle s'en va. Elle revient avec 4 autres sœurs. Et elle me dit, alors, c'est le bon Dieu qui vous envoie, c'est le bon Dieu qui vous envoie. Et en fin de compte, elle voulait faire un livre de recettes, mais voilà, elles étaient un peu bloquées. C'était un souhait qu'elles avaient. Mais elle ne savait pas comment faire. Donc, c'est là où, pour le coup, voilà, le hasard de la vie, je leur ai proposé de les accompagner en leur disant, bien plus qu'un livre de recettes, on va faire plutôt un livre un peu d'art de vivre où vous allez pouvoir transmettre toutes ces valeurs qui sont, moi, mes valeurs et que je trouve merveilleuses, ces valeurs de simplicité, d'authenticité, de sobriété. De donner vraiment du sens aux choses, du sens à leur vie. Enfin voilà, donc je trouvais que c'était merveilleux. Donc j'aurais proposé de faire ce livre. Et ça a été, au-delà du succès du livre, ça a été pour moi une expérience de vie absolument incroyable, puisque pendant 1 an, je suis allée vivre avec elle. J'allais 4 jours tous les mois et demi à peu près, où j'étais avec elle de 6h30 le matin pour les laudes jusqu'à 9h le soir après compli. Et donc, j'ai vraiment vécu avec elle. Et donc, j'ai fait les photos de leur vie. On a fait les photos de leurs plats au fil des saisons. Et ça a été pour moi une rencontre qui a vraiment un peu changé ma vie, je peux le dire, parce que c'est vrai que j'ai toujours été croyante et toujours très appelée, très impressionnée par tout ce qui pouvait être sacré, que ce soit architectural ou tous ces objets de dévotion. Enfin, c'est quelque chose pour lequel je trouvais qu'il y avait une beauté incroyable. Et c'est vrai que de faire le livre avec les sœurs, ça m'a complètement décomplexée. Quand je dis décomplexée, c'est que tout ce côté sacré, ça a toujours été ma source d'inspiration, mais je le gardais pour moi. Et maintenant, aujourd'hui, j'ose dire que mon inspiration, je la trouve dans les églises, je la trouve dans tous ces objets sacrés, je la trouve dans toute la beauté de la vie, dans tout ce qui est spirituel, profond. Voilà, ça c'est vraiment ma source d'inspiration. Et donc, de fait, j'ai proposé à Hachette de faire un livre justement qui parle du sacré dans la décoration.
Donc un deuxième livre qui est celui qui va sortir,
où j'avais vraiment envie de parler de ça, de montrer que finalement, que ce soit aussi un livre qui parle à tout le monde, comme le livre du Mont-Saint-Michel, du reste, c'est vraiment un livre qui parle à tout le monde. Et ça, pour moi, c'est ça vraiment la réussite. Je me dis qu'on est tous en quête de sens, en quête de beauté, de choses qui nous rassurent, qui nous appellent. Et donc, ce livre, je voulais montrer un petit peu comment tout ça pouvait être mêlé. Alors, ce sont soit des lieux désacralisés qui ont été réhabilités en habitation, mais c'est aussi des reportages dans des intérieurs de gens qui mettent justement ces objets au cœur de leur décoration. Et qui ne sont pas forcément des gens croyants. Enfin, c'est ça que je trouve merveilleux, c'est que le sacré, c'est vraiment une notion qui est universelle. Pour moi, le sacré, c'est vraiment cette notion de beauté. C'est la vie, c'est la beauté des choses. C'est presque expérientiel. C'est qui ne s'est pas senti un jour presque en extase devant la beauté d'un monument, d'une situation, de la nature, enfin voilà. Donc c'est ça que j'avais envie de traduire. Et tous les gens que j'ai rencontrés, il y a beaucoup de gens qui ne croient pas forcément, mais qui sont d'accord pour dire que dans ces lieux, il se passe quelque chose, enfin il y a quelque chose de plus, enfin il y a vraiment quelque chose de sacré, qui n'est pas explicable mais qui fait du bien.
Et on peut apporter ces petites touches de sacré,
chez soi, oui, dans la maison, oui, pour que alors, la maison devient un lieu de ressourcement.
Voilà, et même sans aller jusqu'à faire son petit hôtel, enfin, ne serait-ce que de mettre une belle vierge chez soi, les gens me disent, ben moi, je ne crois pas forcément, mais je suis attachée à cette vierge parce qu'elle est là, d'abord, elle est belle, et puis j'ai cette sensation qu'elle me protège, je peux lui parler. Donc, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'avec toute cette notion de sacré, c'est que finalement, ça parle à tout le monde.
Je pousse le sujet encore plus loin. Chez toi, c'est quelque chose de très profond, mais il y a aussi en ce moment, de toute façon, toute une tendance un peu autour du mystique, même de l'astrologie, ça n'a rien à voir, mais on vient chercher quand même quelque chose d'un peu...
Oui, mais alors, je suis entièrement d'accord. Oui, il y a une vraie tendance parce que je pense que on a tous besoin de donner un sens à notre vie. Oui, c'est alors dans tout ce qui est un petit peu sacré aussi, il y a quelque chose, moi, que j'aime, c'est une forme d'espérance. Ça, c'est important de se sentir protégé et même de croire en quelque chose. Hein. Je pense que c'est quelque chose qui fait avancer.
L'espérance de quoi alors?
En la vie.
Donc,
tout simplement.
Et du coup, qui serait multi-religion?
Oui.
Le sacré, c'est multi-religion?
Pour moi, c'est vraiment universel. Oui, alors c'est vrai que moi, je l'ai pris sous un prisme plus chrétien parce que d'abord, c'est notre culture. C'est la culture française. Et puis moi, c'est ma. Voilà, c'est ma religion, donc et puis c'est ma croyance. Donc, je l'ai pris sous cet angle-là. Mais oui, la notion de sacré, je pense que ça appelle tout le monde, oui.
Et encore une fois, pour toi, tu peux faire une passerelle entre cet art sacré et du design.
Oui.
Oui, pour toi, c'est évident.
Ben, moi, c'est là que je prends mon inspiration. Quand je vois les vitraux des églises, c'est la couleur, ces couleurs absolument incroyables qui sont projetées et qui tout d'un coup donnent tout leur sens et habillent l'espace. Ça, les colonnes aussi, je vois la base de mes tables, de mes consoles, ce sont des pieds ronds comme des colonnes. J'ai mon nouveau produit aussi, là, ma nouvelle création qui s'appelle Church. Ce sont des colonnes, des stèles pour poser des choses. Ça, j'ai trouvé l'inspiration à la cathédrale de Chartres. Ça faisait longtemps que j'avais envie de dessiner une stèle, mais je n'avais pas l'inspiration. Et puis, en allant à la cathédrale de Chartres, ça s'est imposé à moi. Quand j'ai vu ces allées de petites colonnes, j'ai dit, ben voilà, c'est ça, comme ça, que je vais faire ma stèle, ouais.
J'allais te demander à quoi ça ressemble chez toi, mais tu nous as dit un peu tout à l'heure, mais ça ressemble au lieu que tu as imaginé.
Voilà, c'est un mélange, vraiment un mélange où chaque objet est à sa place. Chaque objet répond à celui qui est à côté et chaque objet a son histoire.
Ouais. Mmh. On se sépare des objets ou pas pour
J'ai
toi?
J'ai beaucoup de mal. Quand je me sépare d'un objet, en général, je le donne à quelqu'un qui en fera bon usage et qui saura le mettre chez lui.
Ouais, mais s'il est bien choisi et qu'il a sa place...
Moi, je pense que ça peut... Voilà. Après, on peut changer, on peut... Voilà, mais je suis assez fidèle. Voilà.
Est-ce que tu as un coin préféré chez toi? Quel est ton petit coin refuge?
Moi, j'aime... J'ai trois pièces que j'aime chez moi. Ma cuisine, parce qu'elle est, c'est une, bon, elle est grande, il y a une cheminée, j'ai une grande table et pour moi, c'est vraiment un espace de partage. C'est vraiment un lieu d'échange et de partage. On vit dans la cuisine, quasiment. J'aime ma chambre, parce que c'est vraiment mon cocon. C'est vraiment mon... Alors, elle est toute blanche, ma chambre. Étonnamment, je mets beaucoup de couleurs partout, mais ma chambre, elle est toute blanche et c'est vraiment ma petite capsule de voilà, c'est mon petit cocon de calme et de sérénité. Voilà. Puis j'aime aussi le salon, pareil, pour les mêmes raisons, parce que c'est vraiment des lieux d'échange où on peut se retrouver.
Comment on se crée un cocon? Comment on le crée, ça, comme dans ta chambre? Sur quel élément il faut miser?
Alors, je dirais, là, pour le coup, être assez neutre pour avoir où rien ne prend vraiment le pas. Donc, c'est vrai que c'est pour ça que moi, ma chambre, elle est blanche. Tout est blanc dedans parce que, voilà, ça, tout s'harmonise, mais dans la douceur.
Il y a quoi sur ta table de chevet?
Alors, plein de bouquins. des piles de livres parce que j'adore voilà, j'adore lire et c'est voilà, bon, c'est des sur des sujets plutôt ça va être le livre par exemple qui a été écrit avec tous ces journalistes qui sont partis passer quelques jours à Notre-Dame de la Grâce. Voilà, c'est des livres qui moi me nourrissent et m'enrichissent. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Alors, elle n'est pas très grande, ma table de nuit.
Est-ce que le téléphone rentre dans la chambre? Ton téléphone?
Alors, oui, malheureusement, oui. Mon téléphone rentre dans ma chambre. Bah, déjà, parce que j'avais pris ce... J'aime être toujours joignable si jamais il y a quoi que ce soit dans mes lieux, même si ce n'est plus moi qui m'en occupe. J'aime pouvoir être joignable si jamais voilà, il y a une demande particulière. Si... Donc, ça, c'est important pour moi. J'ai des enfants aussi qui ne vivent pas avec moi, donc c'est vrai que c'est aussi pour ça que j'aime avoir mon téléphone avec moi. Et puis, je suis assez curieuse de j'aime me nourrir d'images, et donc c'est vrai que je suis beaucoup sur mon téléphone pour me nourrir d'intérieur, de nature. Enfin voilà, j'aime beaucoup le côté visuel, esthétique, l'image, ça j'aime beaucoup, oui.
Ouais. Dernière question un peu rituelle. Si tu faisais un dîner avec 6 invités, qui serait-il ?
Ah, ça, c'est une question qui n'est pas facile. Alors, c'est assez varié. C'est assez varié. Alors déjà, André Putman, parce que j'admire énormément son travail de designer. Et surtout, je l'envie énormément parce qu'elle a grandi à l'abbaye de Fontenay, que je suis allée visiter. Qui est absolument magnifique. En plus, j'ai eu la chance de la visiter. Je suis arrivée à l'arrache une demi-heure avant que ça ferme en plein hiver. Donc, j'étais seule, toute seule. Je suis rentrée dans l'abbaye. Il y avait des chants grégoriens. Enfin, il n'y avait personne. Et ça, c'était magnifique. Donc, je me dis qu'elle avait une chance inouïe et peut-être ça a été aussi pour elle une source d'inspiration. Donc, déjà, ça, c'est vraiment... J'aurais aimé en parler avec elle. Ensuite... Denis Marquet, qui est un écrivain, qui a écrit un livre qui s'appelle « Le Testament du Rock », ce livre qui m'avait été recommandé par Sœur Nathanaël sur le Mont-Saint-Michel, et qui est un livre qui est un peu romancé sur la vie du Christ. Alors, je dis romancé parce que la façon dont... quand ça a été raconté, c'est Saint-Pierre qui est en prison. Donc ça, c'est romancé, mais par contre, tout ce qu'il raconte est vraiment vrai. Enfin, c'est pour ça d'ailleurs que Sœur Nathanaël me l'avait recommandé. Et à la lecture de ce livre, j'ai eu vraiment une émotion extrêmement intense en relisant finalement les 3 dernières années de la vie du Christ. Voilà, c'était écrit de façon extrêmement... c'était très moderne, c'était très actuel dans les mots, mais enfin voilà... L'histoire reste la même, mais en tout cas, la façon dont c'était raconté, j'ai trouvé que c'était très moderne et pour moi, ça a été vraiment une découverte. Alors, dans un tout autre registre, Florence Foresti, je suis allée la voir en spectacle la semaine dernière et j'avoue, elle me fait tellement rire, mais tellement rire. En plus, elle parle de son dernier spectacle, c'est sur les quinquas, donc je me sens totalement, visée. Et voilà, donc j'ai passé une super soirée, où, voilà, j'ai vraiment énormément ri. Alors, dans un autre registre, je pense à une photographe, une femme encore, qui s'appelle Sarah Moon, qui a une écriture qui est quand même très particulière et que j'ai toujours beaucoup aimée parce que je trouve qu'il y a une douceur, une délicatesse, une poésie dans ces images et qui m'a toujours énormément touchée. Michel-Ange, pourquoi pas, soyons fous, qui est pour moi, qui était vraiment un visionnaire incroyable et qui a un couteau suisse, mais tellement... c'est tellement magnifique tout ce qu'il a fait. Et voilà, donc moi, ça me touche énormément. Et je pense que ça devait être incroyable de rencontrer ce type de personne. Voilà, et puis la dernière personne voilà, que j'aurais aimé avoir à ma table, c'est ma sœur qui est partie très jeune. Elle avait 23 ans et moi 21 ans. Voilà, et ça... Voilà, j'aurais eu vraiment plaisir à ce qu'on se retrouve là, voilà, pour qu'elle voit un petit peu le chemin parcouru. Et c'est vrai que, voilà, je dis que je suis toujours très attachée aux choses sacrées. Je pense aussi qu'elle m'a toujours aussi beaucoup accompagnée dans mon histoire.
Merci. Désolée, merci beaucoup pour cette parenthèse de douceur et enchantée. Merci beaucoup, Laurence.
Merci,
merci. Décodeur, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir écouté en entier. Si vous avez aimé cette émission, n'oubliez surtout pas de vous abonner au podcast pour ne pas rater les prochains épisodes. Bien sûr, vous pouvez aussi la partager en l'envoyant à vos proches ou en story Insta. D'ailleurs, vous pouvez me retrouver sur le compte Décodeur où je poste quasiment tous les jours. Et si jamais vous écoutez cette émission sur Apple Podcast et que vous avez 20 secondes, n'hésitez pas à laisser un commentaire. C'est juste sous la liste des épisodes. C'est comme partout, plus j'ai d'avis et d'étoiles, plus le podcast se détache et se fait connaître. Voilà, merci beaucoup et à très bientôt alors, ici ou ailleurs.